de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente à le journal aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Développement d'IKN. Nusantara place l'Indonésie dans une position stratégique mondiale. Élan du sommet de l'AIS incite l'Indonésie à agir en matière de réduction des émissions de carbone. L'Indonésie veut s'assurer que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU ne se contente pas de discuter de questions géopolitiques. Relations entre l'Indonésie et l'Égypte se rapprochent. Trophée de la Coupe du Monde U17 2023 sera bientôt exposé dans 4 villes. Indonésie et le Japon établissent une collaboration de recherche énergétique pour 5 ans. Le gouvernement garantit le respect des droits des travailleurs migrants indonésiens. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles incomplètes. Le ministre indonésien de la planification du développement national et chef de l'Agence nationale de planification du développement, PPN, Bappenas Soeharto Monoarfa, a déclaré que le développement de la capitale nationale, IKN Nusantara, place l'Indonésie dans une position stratégique mondiale. Cela a été transmis par Soeharto Monoarfa. Lors de la présentation de l'avis final du président de la République d'Indonésie lors de la réunion plénière du Parlement indonésien des PRRI concernant la prise de décision sur le projet de loi concernant les amendements de la loi numéro 3 de 2022 concernant la capitale nationale au bâtiment Nusantara 2 des PRRI Senayan. 3 octobre. Soeharto a dit:
pembangunan ibu kota Nusantara menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih strategis dalam
jalan. Le développement de la capitale de l'archipel Nusantara place l'Indonésie dans une position plus stratégique sur la route commerciale mondiale. Les flux d'investissement et l'innovation technologique dans la capitale de Nusantara devrait également devenir un exemple et une référence pour le développement urbain durable motivé par l'application de la dernière technologie, non seulement en Indonésie mais aussi dans les villes du monde. Le ministre Suharto a expliqué qu'en tant que ville mondiale pour tous, la vision de la capitale Nusantara poursuit trois objectifs principaux, à savoir en tant que symbole de l'identité nationale, ville durable dans le monde et moteur de l'économie indonésienne à l'avenir. Le Parlement indonésien DPR RI a officiellement ratifié le projet de loi concernant les amendements de la loi numéro 3 de 2022 concernant la capitale nationale IKN Nusantara en loi UU lors de la 7e session plénière du DPR RI pour la première période de session de l'année de session 2023-2024 mardi. L'Indonésie accueille le sommet du Forum des îles AIS 2023 le 11 octobre à Bali. Le secrétaire adjoint à la coordination du tourisme et de l'économie créative du ministère des coordinations des affaires maritimes et de l'investissement, Rustam Effendi, a déclaré que l'Indonésie pourrait profiter de l'élan de la tenue du sommet AIS pour donner une bonne image de l'Indonésie dans ses actions réelles visant à réduire les émissions de carbone. Rustam Effendi l'a transmis lors du lancement de la préparation du plan d'action d'atténuation pour la réduction des émissions du sous-secteur de l'hébergement qui a eu lieu à Nusa Dua Bali mardi 3 octobre 2023 qui a été suivi en ligne. Rustam Effendi a dit:
pemerintah bermaksud untuk menunjukkan bahwa sektor pariwisata dapat berkontribusi.
Le gouvernement entend montrer que le secteur du tourisme peut contribuer de manière significative à l'atteinte de l'objectif du NDC, ses contributions déterminées au niveau national. Comme nous le savons, la NDC contient un objectif de réduction des émissions de GES jusqu'en 2030, comme l'une des stratégies de contrôle du changement climatique. De cette manière, le tourisme peut également montrer son rôle dans un développement à faible intensité de carbone et résilient au changement climatique. Rustam Effendi croit qu'avec un esprit de collaboration et de synergie positive, le gouvernement, les acteurs de l'industrie, les organismes communautaires et autres parties prenantes peuvent créer un secteur touristique plus durable et respectueux de l'environnement. En fait, il offre une expérience touristique meilleure et de qualité aux touristes tout en améliorant le bien-être et la durabilité de la vie de la communauté autour de la destination touristique. Le représentant permanent adjoint de la République d'Indonésie à Genève, Hassanul Habib, a déclaré que l'Indonésie voulait s'assurer que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, ONU, ne serait pas seulement occupé à discuter des questions géopolitiques si l'Indonésie était réélue en tant que membre de ce Conseil de l'ONU pour la période 2024-2026. Comme l'a rapporté mardi l'agence de presse Antara, Hassanul Habib a déclaré que si l'Indonésie obtenait un siège au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, l'Indonésie encouragerait les discussions sur les droits au développement, les droits civils et les droits politiques pour recevoir une part équilibrée. Le droit au développement est une question que l'Indonésie soulève régulièrement dans plusieurs forums internationaux, notamment lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, aux États-Unis, en septembre dernier. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU organisera des élections pour ses nouveaux membres le 10 octobre à New York. L'Indonésie se propose d'être l'un des candidats potentiels aux membres. L'ambassadeur d'Indonésie en Égypte, Lutfi Raouf, a déclaré que les relations de coopération entre l'Indonésie et l'Égypte dans divers domaines tels que le commerce, l'économie, l'éducation et la culture se resserraient. L'ambassadeur Lutfi estime également que l'Indonésie et l'Égypte peuvent relever les défis économiques mondiaux actuels grâce à leur engagement. leur détermination et leur travail acharné, citant le rapport d'Antara mardi dans une déclaration écrite de l'ambassade d'Indonésie au Caire. L'ambassadeur Lutfi a déclaré que le partenariat et la collaboration entre les pays sont la clé du succès pour relever les défis mondiaux auxquels nous sommes actuellement confrontés en raison de la pandémie de COVID-19 et la crise alimentaire et énergétique. Il a également déclaré que l'Indonésie et l'Égypte avaient signé un mémorandum d'accord sur la création d'un comité commercial conjoint au Caire et a déclaré que l'existence de ce comité était très importante pour identifier et optimiser le potentiel de coopération économique encore inexploité par les deux pays. Selon Lutfi, la relation des coopérations entre l'Indonésie et l'Égypte n'est pas une concurrence, mais plutôt une relation qui complète les échanges commerciaux de chacun. À l'approche de la Coupe du Monde U17 2023 qui se déroulera du 10 novembre au 2 décembre, les trophées des championnats du monde des jeunes joueurs seront bientôt exposés dans quatre villes. Cité par l'agence de presse Antara, le peuple indonésien pourra bientôt voir le majestueux trophée de la Coupe du Monde U17 lors de l'expérience du trophée de la Coupe du Monde U17 de la FIFA. Indonésie 2023 qui devrait être exposé à Jakarta 15 octobre, Bandung 22 octobre, Surabaya 29 octobre et Solo 5 novembre. Le trophée symbole de suprématie de la Coupe du Monde U17 devrait être exposé dans un espace public facilement accessible et actuellement le choix du lieu attend toujours l'approbation de la FIFA. Le président général de la Fédération indonésienne de football, PSSI, Erick Thohir, a déclaré mardi lors d'une conférence de presse à Jakarta que cette activité faisait partie de la campagne indonésienne visant à accueillir un tournoi junior comme la Coupe du Monde U17. Plus tard, lors de l'exposition des trophées de la Coupe du Monde U17, le comité local et le gouvernement régional organiseront une série d'événements de soutien, notamment les publics pouvant interagir directement avec Bachuya, la mascotte de la Coupe du Monde U17 2023, et aussi les stars de l'équipe nationale indonésienne qui sont des héros locaux. Des équipes de scientifiques japonais et indonésiens collaboreront au cours des 5 prochaines années pour encourager la recherche et l'innovation durable dans le secteur de l'énergie. Puspitalis Dianti, chercheuse au Centre de recherche en biosystématique et en évolution de l'Agence nationale de recherche et d'innovation, BRIN, a déclaré mardi dans un communiqué à Jakarta que la collaboration était une étape monumentale vers le développement durable. Puspitalis Dianti a expliqué que la collaboration partenariat de recherche scientifique et technologique pour le développement durable, SATREPS, reflète l'engagement conjoint de l'Indonésie et du Japon à développer les connaissances scientifiques et à encourager l'innovation pour parvenir à un avenir plus durable. Le partenariat de recherche scientifique et technologique pour le développement durable, SATREPS, est un programme de coopération entre les gouvernements du Japon et de l'Indonésie dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation, ainsi que du développement des capacités. Le programme, financé par l'Agence japonaise de collaboration internationale, JICA, couvre 4 domaines, à savoir l'environnement et l'énergie, les ressources biologiques, la prévention des catastrophes ainsi que l'atténuation et le contrôle des maladies infectieuses. La ministre indonésienne de la Manœuvre, Ida Fauzia, a souligné que le gouvernement garantit le respect des droits des travailleurs migrants indonésiens avant, pendant et après le travail. Comme cité dans le communiqué de presse du ministère à Jakarta mardi, elle a déclaré que l'État offre entre autres des garanties de protection sociale aux travailleurs indonésiens qui perdent une partie ou la totalité de leurs revenus en raison d'une maladie, d'un décès ou des problèmes d'emploi lors de l'événement de socialisation pour le règlement numéro 4 de 2023 du ministre de la Main-d'œuvre concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants indonésiens à l'ambassade de la République d'Indonésie, KBRI, au Koweït. Il a déclaré que les réglementations concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants comprennent des programmes de protection sociale, un emploi complet et abordable avec des taux de cotisation fixes et des prestations croissantes. Parallèlement, le secrétaire général du ministère de la Main-d'œuvre, Anwar Sanusi, a déclaré que les efforts visant à élargir la portée du programme de sécurité sociale pour les travailleurs migrants indonésiens nécessitent une stratégie spéciale qui implique la coopération des ministères, des institutions et des représentants indonésiens à l'étranger. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « FIFA ouvre l'option Whoosh comme moyen de transport pour la Coupe du Monde U17 2023 » avec Maudry. Chers auditeurs, lundi 2 octobre dernier, le président Joko Widodo a inauguré l'exploitation du train rapide Jakarta-Bandung. Le train s'appelle Whoosh, une abréviation de « Saving Time ». Optimal Operation Grid System. Le train qui relie Jakarta et Bandung a actuellement une longueur de voie de 142,3 km, utilisant le CR400AF de dernière génération. Le train est capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 350 km par heure.
ce qui le place comme le train le plus rapide d'Indonésie et même le plus rapide d'Asie du Sud-Est. Dans son discours d'investiture, le président Joko Widodo a déclaré que le train à grande vitesse Jakarta-Bandung était une nouveauté pour l'Indonésie. Le président espère également que le peuple indonésien n'aura pas peur d'apprendre et d'essayer de nouvelles choses en développant un certain nombre de projets de transport en commun. Même si au cours du processus des choses inattendues, des difficultés, des problèmes et même des imperfections surgiront. Cependant, avant son inauguration de membre de la Fédération mondiale de football FIFA, Marcin Thomas Stanowski et Mike Wettstein avaient tenté de monter à bord du train à grande vitesse Jakarta-Bandung. La page Kompas.com a rapporté qu'ils semblaient tous deux satisfaits après avoir effectué un voyage d'essai de Jakarta à Bandung aller-retour. Dans le développement suivant, la FIFA a ouvert l'option du train rapide Jakarta-Bandung comme moyen de transport reliant les deux sites de la Coupe du Monde U17 2023, Jakarta et Bandung. Le président de la Fédération indonésienne de football PSSI, Erick Thohir, a apprécié la FIFA pour avoir ouvert la possibilité d'utiliser le train rapide Jakarta-Bandung comme moyen de transport pour relier les deux sites de la Coupe du Monde U17. Avec un temps de trajet de 36 à 44 minutes, ce transport permet d'accélérer la mobilité et de gagner du temps. En effet, minimiser le temps est la clé du bon déroulement de la Coupe du Monde U17 en Indonésie. Mais les organisateurs ne se sont certainement pas concentrés uniquement sur la mobilité rapide des joueurs et des organisateurs entre les deux sites. La FIFA sera également attentive à d'autres domaines liés au match, notamment à la sécurité des joueurs, des officiels et même des spectateurs. Par conséquent, les organisateurs peuvent travailler en collaboration avec le train rapide de Jakarta-Bandung pour organiser le voyage en train de manière à ce qu'à la date de mise en œuvre, à savoir du 10 novembre au 2 décembre 2023, tous les participants U17 puissent utiliser le train rapide de Jakarta-Bandung en toute sécurité et sans problème. Pendant ce temps, le grand public peut toujours utiliser les nouveaux moyens de transport indonésiens en toute sécurité, confortablement et agréablement. Bon, chers auditeurs, c'est tout, le commentaire.
Chers auditeurs, bonsoir, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 4 octobre, la commémoration de la Journée mondiale des animaux. Cette commémoration a commencé à Florence, en Italie, en 1931, lors de la Convention des écologistes. À cette date, on apprécie la vie animale sous toutes ses formes et planifie des événements spéciaux dans divers endroits du monde. Le 4 octobre a été initialement choisi comme Journée mondiale des animaux, car à cette date a eu lieu un banquet en l'honneur de François d'Assise, amoureux de la nature et protecteur des animaux et de l'environnement. Passons à l'événement du 4 octobre 1957, lancement de Sputnik 1. L'Union soviétique est entrée dans l'histoire en lançant Sputnik 1, le premier satellite artificiel au monde. Le lancement de Sputnik 1 au plus fort de la guerre froide a choqué le monde occidental. Ce fut le début de l'ère de l'exploration spatiale humaine et déclencha la course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique. Sputnik a été lancé depuis le cosmodrome de Baïkonour en RSS du Kazakhstan. Thank you. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 4 octobre 2004. Le père Sosolo Bambang Yudhoyono et Yusuf Kalla a été annoncé vainqueur de l'élection présidentielle. Le 5 juillet 2004, l'Indonésie est entrée dans l'histoire en organisant pour la première fois des élections présidentielles directes, pilpres. Dans les périodes précédentes, le président et le vice-président étaient élus par l'Assemblée consultative du peuple, MPR. Le 4 octobre 2004, la Commission électorale générale a annoncé le vainqueur de l'élection présidentielle directe, à savoir le père Sosolo Bambang Yudhoyono et Yusuf Kalla. C'est du retard, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Aku dan dirimu sudah jadi satu di dalam ikatan percaya. Dunia asmara ku, dunia asmara. Sempurna.
I can bear recording. It is more than just physical attraction. If you know we're individuals, but we have this spiritual connection. A passionate as always, you the one and only. Baby, you can call me every time you feel you want me. And I'll be there for you, and I know you too. And I love you till the world is falling apart.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Sejurita, pour la suivante, on va donc mon Indonésie et en pour le titre, le président du DPR RI et le président du Conseil populaire Mali discutent de la coopération maritime, de l'IKN et de l'ASEAN. Le président du Conseil représentatif du peuple de la République d'Indonésie, DPR RI, Madame Puan Maharani, a rencontré le président du Conseil populaire Mali, Tan Sri Dato' Johari Abdul à Kuala Lumpur, lundi 2 octobre. La réunion a discuté des diverses renforcements de la coopération entre les deux pays, dont l'un dans le secteur maritime. Citant la page dpr.go.id, Puan Maharani a exprimé l'importance de la coopération entre l'Indonésie et la Malaisie dans le secteur maritime, notamment parce que les deux pays sont voisins et entourés de mer. Cette collaboration a été menée pour éradiquer la pêche illégale et délimiter les frontières maritimes et terrestres. Elle soutient les efforts visant à finaliser l'accord concernant la délimitation maritime dans le segment de la mer de Sulawesi et du détroit de Malacca. Puan Maharani a assuré que le DPR RI, à travers sa fonction de supervision, continuerait de suivre le progrès de cet instrument. À cette occasion, Puan a invité le Parlement malais et le DPR à lutter pour une résolution de la crise au Myanmar, conformément à la résolution adoptée lors de la 44e session générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN, qui s'est tenue à Jakarta il y a quelque temps. Il a également évoqué le rôle de l'Indonésie et de la Malaisie en tant que cofondateur de l'ASEAN. Le président de la Chambre des représentants indonésiens a souligné l'importance des relations de l'Indonésie avec la Malaisie en tant que point d'ancrage pour créer la paix et la stabilité de la sécurité dans la région. Pour cette raison, Puan espère que les deux pays pourront gérer les différents problèmes rencontrés à travers des mécanismes et forums bilatéraux. La réunion entre le président des parlements indonésiens et malais a également discuté de la coopération dans le développement de la capitale nationale de l'archipel et du renforcement de la coopération dans les secteurs de l'eau de palme et de l'industrie maritime des deux pays. Citant un rapport de l'agence de presse Antara, Puan Maharani a expliqué que le président du Conseil populaire malais avait déclaré que la Malaisie était très intéressée à participer aux énergies renouvelables, à l'hydroélectricité et aux infrastructures dans la capitale indonésienne. Puan Maharani a expliqué que la réunion a également discuté de l'importance du renforcement de la coopération entre l'Indonésie et la Malaisie dans le secteur de l'industrie de l'eau de palme, pour que l'Indonésie et la Malaisie puissent bien s'expliquer et avoir des arguments clairs lorsqu'elles traitent avec les pays européens. Pendant ce temps, le président du Conseil populaire malais, Tan Sri Dato' Johari, a déclaré que la Malaisie soutenait la décision de l'Indonésie de déplacer la capitale du pays de Jakarta à Kalimantan. Selon Tan Sri Dato' Johari, le déplacement de la capitale du pays renforce la relation entre les deux pays dans les domaines du commerce et d'autres domaines, notamment le tourisme, l'occupation et la sécurité alimentaire. Tan Sri Dato' Johari expliquait que la réunion a également discuté des échanges entre universitaires, chercheurs et penseurs des universités des deux pays. Il a souligné que les pays de l'ASEAN doivent devenir plus forts dans le domaine de la recherche afin que cela puisse contribuer à résoudre le problème de sécurité alimentaire qui afflige actuellement le monde. Deuxièmement, le président du Parlement a également discuté de la mise en œuvre de l'innovation. Tan Sri Dato' Johari expliquait que l'Indonésie et la Malaisie ont des similitudes et une nature qui doivent être explorées avec de nouvelles innovations, notamment en utilisant l'intelligence artificielle. Johari a déclaré que la montée de l'Asie ne pouvait plus être stoppée et que les pays de l'ASEAN, dont l'Indonésie et la Malaisie, devaient accepter cette situation et l'anticiper en préparant leur zone avec les connaissances et les compétences nécessaires pour accepter la montée de l'Asie. C'est auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Di sini ku memikirkanmu.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Chers auditeurs, le monde menoré est une zone montagneuse qui s'étend sur la région occidentale de la résidence de Kulon Progo, dans la province de la région spéciale de Yogyakarta, à l'est de la résidence de Purworejo et sur certaines parties de la résidence de Magelang dans la province de Java centrale, en plus d'être une frontière naturelle entre les trois résidences. Les montagnes menoré sont connues dans l'histoire comme la base de défense du prince Diponegoro ou de ses partisans lors de la guerre de Java ou guerre Diponegoro 1825 à 1830 contre le colonialisme néerlandais. Géomorphologiquement, la région des monts menoré présente un relief complexe. Les conditions physiques complexes de la région des monts menoré sont dues à l'existence de processus endogènes et exogènes qui agissent sur diverses roches pour former le paysage qui existe aujourd'hui. Vu du temple de Borobudur, la forme des montagnes menoré est censée former une personne dormant au sommet des montagnes qui serait Gunadharma, considéré comme l'architecte du temple de Borobudur. Le lever du soleil est une attraction naturelle dont vous pourrez profiter depuis le sommet des montagnes de Menoré. Le plus haut sommet des montagnes Menoré est le mont Ayam Ayam, qui culmine à plus de 1021 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le mont Ayam Ayam est administrativement situé à la frontière de la résidence de Purworejo et de la résidence de Magelang. Chers auditeurs, les collines de Menoré, en particulier à Kulon Progo, sont aussi populaires que le géoparc Gunung Sewu à Gunung Kidul et le parc national du géoparc Gunung Batur à Bali. Même aujourd'hui, plusieurs attractions naturelles des montagnes de Menoré sont devenues des destinations préférées des touristes nationaux et étrangers. Il est bondé de visiteurs, surtout les jours fériés et le week-end. Les montagnes Menoré ont un charme naturel incroyable. La zone est dominée par des collines, suivies par des forêts, des canyons, des rivières, des cascades, des grottes, des lacs, etc. Elle est également riche en diversité de flore et de faune. Chers auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
Kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Namun siapkah kau tuh jatuh cinta? Bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada.
Serge Lutar, c'était la 3e chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie. C'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Beristirahat di Serambi Masjid. Beristirahat di Serambi Masjid. En français, se reposer sous le porche de la mosquée. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Beristirahatlah di Serambi Masjid. Beristirahatlah di Serambi Masjid. En français, se reposer sous le porche de la mosquée. Cette conversation se déroule entre Chris, un vlogueur australien, et Sortauli, une amie des vlogs de Chris. Ils se sont reposés et ont admiré l'architecture de la grande mosquée de Sumatra occidentale. Bonne écoute.
Unik sekali bangunan Masjid Raya Sumatera Barat ini.
Bagaimana kalau kita beristirahat di Serambi Masjid?
Boleh, tapi fotokan saya dulu ya.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Intitulé Beristirahat di Serambi Masjid. Beristirahat di Serambi Masjid. Se reposer sous le porche de la mosquée. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Bagaimana kalau kita beristirahat di Serambi Masjid? Bagaimana kalau kita beristirahat di Serambi Masjid? Et si on se reposait sous le porche de la mosquée? Bagaimana? Bagaimana? Et ou comment? Kalau. Kalau si kita kita on. Beristirahat. Beristirahat, se reposer. Serambi. Serambi. Porche. Masjid. Masjid, mosquée. Perlu. Perlu, nécessaire. Unik sekali. Unik sekali, très unique. Bangunan. Bangunan, bâtiment. Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid Raya Sumatera Barat, grande mosquée de Sumatra occidentale. Boleh. Boleh, peut-on? Fotokan. Fotokan, prendre la photo. Chers auditeurs, dans la conversation, vous avez entendu l'expression Bagaimana kalau kita beristirahat di Serambi Masjid? Bagaimana kalau kita beristirahat di Serambi Masjid? En français, et si on se reposait sous le porche de la mosquée? Dans cet énoncé, il y a le verbe beristirahat. Beristirahat, se reposer. C'est-à-dire faire des activités de repos. Pour exprimer l'activité consistant à faire quelque chose, vous pouvez utiliser des verbes similaires. A beristirahat. Beristirahat, se reposer. Tel que berlari. Berlari. Courir et berjalan, berjalan, marcher. Chers amis, allez, écoutons d'autres exemples d'utilisation de verbes significatifs pour réaliser des activités. Berlari, berlari, courir. Murid berlari menuju kelas. murid berlari menuju kelas. Les étudiants courent en classe. Berbisnis. Berbisnis, faire des affaires. Pengusaha itu mulai berbisnis sejak masih muda. Pengusaha itu mulai berbisnis sejak masih muda. L'entrepreneur a commencé à faire des affaires quand il était jeune. Chers amis, la grande mosquée de Sumatra occidental dans la ville de Padang a reçu un prix international pour l'architecture de la mosquée. La grande mosquée de Sumatra occidental n'a pas de dôme, mais possède un toit typique de la maison Gadang de Minangkabau. L'architecture de la mosquée symbolise un mélange de valeurs traditionnelles et de la charia. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Unik sekali bangunan Masjid Raya Sumatera Barat ini.
Bagaimana kalau kita beristirahat di serambi masjid?
Boleh, tapi fotokan saya dulu ya.
Bonjour Jeta, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Voice of Indonesia.
Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 33,5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Bali intitulée « Meong Meong ». La chanson intitulée « Meong Meong » est l'une des chansons pour enfants de Bali. Cette chanson est chantée lors d'un jeu traditionnel balinais appelé « Meong Meongan ». Dans le jeu « Meong Meongan », un enfant joue le rôle d'un chat. Le chat doit attraper les autres enfants qui jouent le rôle des souris. La chanson intitulée Meong Meong contient également une demande au chat d'attraper immédiatement les souris qui causent souvent des problèmes. Bon, chers auditeurs, voici une chanson intitulée Meong Meong, chantée par Emoni. Bonne écoute.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @boyindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.